On va vous raconter l'histoire de Witekio, société spécialisée dans l'édition de logiciels embarqués à destination des fabricants high-tech. Créé en 2002, Witekio a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. Avec 170 salariés répartis entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, le bureau d'études lyonnais intervient dans de nombreux domaines, industrie, médicale et automobile entre autres. Comment l'Internet des objets peut-il développer vos gains de productivité? On en parle tout de suite avec Samir Bonab, directeur général de Witekio. Bonjour Samir.
Et bonjour Pierre, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravi d'être invité à ce podcast, notamment puisque l'entreprise du futur, c'est une aventure que je suis depuis longtemps, notamment avec Alban. Et donc je suis ravi de pouvoir me reconnecter à tout ça et d'ancrer Witekio dans cette communauté PME-ETI. Que j'apprécie beaucoup.
Le plaisir est partagé, soyez le bienvenu dans le podcast de l'entreprise du futur. Samir, on va rentrer dans le vif du sujet avec vos collaborations. Vous travaillez avec des multinationales comme L'Oréal, Leica, Solvay, pour ne citer qu'eux. Pour être très concret, Samir, je vous propose peut-être en premier lieu de partager avec nous les différents types de projets et services produits pour vos clients.
Effectivement, on travaille avec les fabricants ou les designers de produits technologiques, incluant L'Oréal, Solvay ou des entreprises comme John Deere ou des grutiers comme Manitowoc ou des gens dans les équipements de cuisine ou dans les équipements médicaux. Et ce qu'on fait, nous, c'est donner vie aux produits technologiques. C'est-à-dire qu'il y a le volet à ce qu'on appelle hardware électronique qui permet d'avoir la base, la structure, et puis le software va donner vie à ces objets. À savoir développer les interfaces homme-machine, développer les couches de connectivité, développer toute la partie cybersécurité, toute la partie bas niveau, qu'on appelle aussi, quand on fait bien notre travail, parfois ça ne se voit pas. Et donc, on va travailler sur ces équipements et faire un développement de A à Z qui permet donc d'avoir un device avec des fonctionnalités qui sont au goût du jour, qui soient sécurisées, qui soient robustes, puisque parfois on a des cas d'usage qui sont sur 10, 15, 20 ans pour nos clients. Donc, notre métier, c'est d'assembler les meilleurs talents au sein de Witekio avec des architectes, des développeurs, des UX designers, des experts en cybersécurité, des experts en bas niveau, des experts en Linux, des program managers pour arriver d'un point A à un point Z avec le client. Sachant qu'on va nous solliciter souvent pour soit aller plus vite sur des projets de développement. Quand on a une R&D, on a beaucoup de contraintes de timing. Ou on va nous solliciter aussi parce qu'il y a des ruptures technologiques qui font que on est un peu plus avancé que nos clients, puisqu'on investit beaucoup sur le développement de nos compétences et des technologies associées. Et donc, on va travailler main dans la main avec les R&D. On est copilote des équipes R&D, des équipementiers.
Samir, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de logiciel que vous avez développé, justement?
Alors, on peut prendre l'exemple d'une machine à café, par exemple, qui est un secteur sur lequel ça a beaucoup bougé ces dernières années. On va avoir une ancienne machine à café qui est avec des boutons, par exemple, ou avec des petits écrans 7 segments. Et puis, on va travailler sur la nouvelle génération qui a un grand écran, qui est capable de diffuser des vidéos en HD, qui est capable de se mettre à jour automatiquement, qui est sécurisé, qui a beaucoup de fonctionnalités sur l'outil. Donc ça, c'est un exemple où le client a son produit, sait faire du café, mais pas forcément le reste. Et nous, on vient aider l'équipe R&D à développer l'intégralité de ses fonctionnalités. Je donne un autre exemple, peut-être dans le B2B plutôt. Un grutier qui veut connecter toutes ses grues pour pouvoir faire de la maintenance, faire de la maintenance préventive et puis ensuite de la maintenance prédictive. Bah, comment on fait quand on est grutier, qu'on est plutôt expert sur la mécanique et sur certains volets électroniques pour aller sur les dernières technologies de connectivité, d'interface graphique, de sécurisation, de gestion de la donnée, etc. Et donc, on va venir développer toute l'interface, toute la plateforme qui permet de gérer ses grues à distance, de collecter des informations sur les grues, d'intervenir en cas d'incident, et puis au fur et à mesure de créer de la valeur avec la donnée qui est générée par ces grues également.
C'est tout le lien justement avec ma prochaine question. J'ai sorti les calculettes et à l'échelle mondiale, il y avait en 2021, selon le cabinet d'études américain IoT Analytics, 12,3 milliards d'objets connectés. C'est énorme. L'Internet des objets, ou IoT, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parmi les usages les plus courants d'entreprise. Finalement, ce que vous nous présentiez il y a quelques secondes, ça peut être de la maintenance prédictive, de la géolocalisation des ressources. Je vous donnerai peut-être d'autres exemples dans quelques instants. La promesse, c'est les gains de productivité. En revanche, parfois, il y a aussi une crainte relative affichée, justement, liée à l'industrialisation et ses enjeux. Comment, Samir, une entreprise peut-elle se saisir du sujet pour se lancer dans le grand bain de l'IoT ?
Alors, je vais tenter de donner la réponse la plus pratique possible pour que ça soit activable pour mes collègues dirigeants. Je distingue deux grands scénarios pour l'IoT et qui appellent des manières de l'aborder qui sont assez différentes. La première, c'est l'IoT pour les gains de productivité, c'est-à-dire on va utiliser l'IoT pour optimiser ses process internes, ses process industriels, ses process logistiques, ses process de tournée, etc. On va utiliser la technologie et notamment la connectivité pour économiser, gagner de l'argent, entre guillemets, ou dépenser moins. Et le deuxième scénario, c'est l'IoT pour innover sur son produit, qui est un petit peu à l'inverse. Là, c'est pour apporter plus de valeur à ses clients et pouvoir soit gagner plus d'affaires parce qu'on est plus compétitif, soit augmenter ses prix puisqu'on apporte plus de valeur. Donc déjà, c'est très important de séparer les deux puisque la manière d'aborder la création de valeur associée n'est pas la même. Quand on parle des gains de productivité, on va pouvoir plus facilement, entre guillemets, estimer puisqu'on se dit, voilà, je vais remplacer ce process par de l'automatisation, par de la connectivité. Donc, on a un ROI qui est souvent à plus court terme et qui est un peu plus mesurable. Sur l'innovation produit, on est dans le business du risque. Et là, on va avoir un peu plus de mal à de base, imaginer le ROI. Il y a des méthodes de développement qui sont plus proches des méthodologies de lancement de l'innovation que de méthodologies pure ROI associées. Donc, je dirais déjà bien se poser cette question-là. Ensuite, peu importe les scénarios, ce qu'on peut faire si on est un petit peu à court d'idées et aussi pour trouver les bons cas d'usage, puisque c'est bien beau de connecter des choses, mais il faut en faire quelque chose d'utile, on peut utiliser des matrices de créativité hein, et puis on voit comment ça match. Est-ce que ce problème-là peut être résolu par cette techno-là ? Est-ce que ce problème-là peut être résolu par ce techno-là ? Et puis on va avoir avec cette matrice 10, 15, 20 différents cas d'usage. Puis on pourra les prioriser, les sélectionner. Une fois qu'on en a sélectionné certains qui font du sens avec votre équipe de direction, avec les spécialistes, avec vos experts, vous pouvez aller explorer le terrain pour collecter de l'information, comprendre les clients, comprendre un peu mieux si ça pourrait aider ou si c'est des clients internes ou externes, comprendre si ça s'intègre correctement dans leur process. Une fois que vous avez suffisamment d'informations, vous pouvez commencer des phases de ce qu'on appelle UX développement, c'est-à-dire faire des scénarios d'utilisation, faire des scénarios d'onboarding, d'offboarding, des scénarios d'usage de votre solution IoT pour en déduire une roadmap de développement. Et puis cette roadmap de développement, cette feuille de route de développement avec différentes fonctionnalités, vous pouvez ensuite commencer les développements, bien sûr, avec une approche itérative. Donc là, c'est là-dessus où on va pas mal travailler avec nos clients sur ce processus amont avant de pouvoir développer un peu plus en industriel. Donc, en synthèse, je dirais bien sélectionner les scénarios, ensuite partir des cas d'usage et s'appuyer sur la technologie qui vient servir un cas d'usage et pas l'inverse, puis développer sa feuille de route avec soit sur dans les compétences en interne, soit avec des entreprises comme WITIQ, et puis lancer les développements en mode itératif où on va rapidement itérer avec le client.
Il faut avoir une maturité technologique, avoir des infrastructures déjà assez solides ou on peut, même quand on n'a pas grand-chose, se poser la question à l'IoT.
C'est une question intéressante. Je pense que je n'aurais pas eu la même réponse il y a 2 ou 3 ans. Je dirais que maintenant, il y a beaucoup qui a été fait pour simplifier, pour rendre les choses le plus plug and play possible. Je dirais que n'importe quelle entreprise qui a une structuration IT à peu près correct, est capable de se lancer sur de l'IoT avec des briques préexistantes, avec des choses sur lesquelles on va sous-traiter, entre guillemets, les problèmes de sécurité, les problèmes de connectivité, les problèmes d'accès, etc. Donc, à date, je ne vois aucune limite pour la majeure partie des PME et ETI pour se lancer sur de l'IoT. Le vrai enjeu, il est plutôt sur trouver les bons use cases. Et ensuite, sur la partie industrialisation, là, ça devient un petit peu plus costaud. Il faut soit avoir les ressources en interne qui sont capables de passer d'un prototype à quelque chose qui va marcher 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, selon votre cas d'usage, mais on peut arriver à des choses comme ça, soit avec des partenaires qui sont capables de le prendre. Je vous donne un exemple sur la connectivité. Dès l'instant où on met un service de connectivité sur un device, l'attente du client final, c'est d'avoir du support tout le temps. C'est-à-dire que s'il utilise ce device un samedi à 2h du matin, pour des raisons qui lui appartiennent, et que ça ne marche pas, et qu'il y a 4 heures d'interruption à ce moment-là, c'est un problème de perception. Donc ça, c'est nouveau aussi pour les entreprises, pour le coup. Et donc, sur l'industrialisation, effectivement, il y a un peu plus de challenge. Mais en tout cas, sur les phases de prototypage amont, Je dirais que maintenant, on a des choses assez robustes pour pouvoir aller vite et tester des cas d'usage assez rapidement.
Samir, l'Internet des objets doit son existence naturellement au réseau. Le déploiement du réseau 5G est à date à son balbutiement dans le monde. La première offre commerciale a été lancée en 2019 en Corée du Sud et tous les pays industrialisés développent ce réseau à fort potentiel économique qui préfigure un bouleversement a priori important de l'Internet des objets. Ma question est simple, l'entreprise du futur, Samir, doit-elle être early adopter sur la 5G pour accélérer l'Internet des objets et justement afficher des gains de productivité.
Alors, quitte à être un petit peu provocateur, je dirais qu'on s'en fiche un peu.
Ah bon?
Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que il y a beaucoup ce qu'on appelle la hype ou la mode, notamment sur la technologie, où on va avoir tout un écosystème de consultants et de journalistes et d'experts et de gens qui vont être titillé et excité par toutes ces nouvelles technos, et puis on en parle, et du coup la 5G, c'est un petit peu cette courbe qui se passe en ce moment, avec beaucoup d'excitation, beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir, etc. Et nous, là, on travaille justement avec nos clients à décoder ce type de tendance pour se dire, est-ce que c'est vraiment important d'y aller maintenant? Est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Est-ce que ça va se développer là et il faut prendre la place avant que d'autres la prennent? Je dirais que dans le cas de la 5G, c'est pas tellement la question à se poser pour les entreprises, dans le sens où c'est un canal, c'est un moyen. Donc, si pour mon cas d'usage IoT, j'ai besoin de connectivité, quel est le scénario de connectivité dans lequel je suis et est-ce que j'ai besoin de 5G? Si je suis dans de l'IoT, d'infrastructure et d'asset management, et que par exemple, je travaille à connecter des climatisations dans un bâtiment, il est fort probable que j'ai un accès Wi-Fi dans ce bâtiment, ou voire même si ce bâtiment est un petit peu connecté, qu'il y ait du Zigbee ou d'autres technos industriels de connexion. Dans ce cas-là, la 5G n'aura pas d'importance, ou peu en tout cas. À l'inverse également, la 5G, dans des cas où on est dans des bâtiments, et voire des bâtiments un peu épais ou un peu profonds, dans des caves ou dans des scénarios où il y a, on va dire, des cages de Faraday un peu conséquente autour, la 5G va mal capter et ça va être un scénario qui va pas servir. À l'inverse, dans l'agriculture, effectivement, un tracteur, il est souvent dans des zones à l'air libre, où la connectivité jusqu'alors n'était pas toujours évidente. On hésitait avec le satellite, avec la 2G, avec la 3G, la 4G. Et là, la 5G pourra avoir du sens. Mais ce que je veux dire par on s'en fiche, c'est que ce n'est pas la question que doivent se poser des PME et ETI au moment de lancer un nouveau produit IoT ou une démarche IoT en interne. Ça, ce n'est qu'une conséquence de tout le travail amont qui sera quel use case, quel scénario, quelle valeur. Et puis la techno, à la limite, peuvent demander à Witekio, on les aidera à choisir la bonne.
Samir, parlons de cybersécurité, c'est un sujet primordial. D'après le baromètre du Club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique, 54% des entreprises françaises ont été attaquées en 2021, c'est énorme. Les attaques sont en pleine explosion. 50 000 euros, c'est le coût moyen hein, d'une attaque, c'est encore une fois énorme. Comment travaillez-vous sur le front de la cybersécurité, Samir?
C'est assez intéressant ce qui s'est passé et ce qui se passe encore sur le volet cybersécurité, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on est tous un peu conscients qu'il faudrait le faire, mais au moment d'investir de l'argent là-dedans, ce n'est pas la plus grande des priorités pour pas mal d'entreprises, notamment puisqu'ils considèrent qu'ils ne voient pas l'impact de valeur directe, c'est-à-dire que c'est un peu comme une assurance, on va développer de la cybersécurité pour se protéger de quelque chose, mais ça ne va pas forcément apporter, en tout cas en perception, de la valeur ajoutée à notre client final ou à notre scénario IoT. Et donc, on a vu le marché traîner un peu des pieds pour intégrer ce sujet-là. Moi, j'ai la conviction que ça va passer, et ça, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, de quelque chose où les gens n'ont pas tellement envie d'investir là-dedans à quelque chose où les gens sont obligés d'investir là-dedans, sans passer par la phase où ils ont envie d'investir là-dedans. C'est ce qu'on est en train de voir là, c'est que de toute façon, il y a du normatif, il y a des contraintes légales qui sont de plus en plus fortes. Et puis, il y a des contraintes de risque quand on fait du management par le risque, qui fait qu'on ne peut pas se permettre de ne rien faire sur ce sujet-là. Nous, ça fait, je dirais, 2 à 3 ans qu'on a investi sur le sujet de la cybersécurité, puisqu'on a senti, enfin, de manière structurée, j'entends, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur des sujets de sécurité, mais là, on a lancé vraiment une démarche holistique sur ce sujet-là. Et on l'a pris sous trois axes. Le premier, c'est l'axe interne, c'est-à-dire comment nous-mêmes, on peut s'assurer que notre entreprise est protégée. Au-delà, bien sûr, de de protéger Witekio des ransomware et des attaques informatiques. On a aussi des actifs importants de nos clients qui sont chez nous, notamment du code source, notamment du logiciel et de l'IP. Et donc, il faut qu'on soit capable de protéger ça. Donc, c'est pour ça qu'on a passé la norme ISO 27001, qui était un joli challenge pour une PME de notre taille, mais qui peut avoir du sens pour pas mal d'entreprises, puisque ça permet d'être cadré, d'être accompagné dans cette démarche. Et puis, pour beaucoup, je recommande de se poser la question, puisque vos clients, et notamment en B2B, demandent de plus en plus ce type de certification pour montrer que vous avez un niveau de sécurité acceptable dans vos process, dans votre infrastructure. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet compétences, pour que nous, on soit capable d'aider encore plus nos clients là-dessus. Et on a créé un pôle d'expertise en France, avec des experts de cybersécurité qui viennent sur des anciens de laboratoires de cybersécurité ou des anciens de l'industrie de la cybersécurité et qui viennent soutenir les 130 projets qu'on fait par an sur l'aspect cybersécurité, soit pour faire des audits au hasard, soit pour faire du consulting, soit pour faire du développement sur le volet cybersécurité. Puis le troisième volet, c'est l'aspect projet où là, on a développé des offres avec des formats amont sur du workshop et puis sur des offres qui permettent de rajouter toute la surcouche cybersécurité sur le développement des produits, puisque, et ce n'est pas des grands mots, la cybersécurité, c'est holistique. C'est-à-dire que la sécurité d'un système sera la sécurité de l'élément le plus faible, et l'élément le plus faible inclut la manière dont on a développé le projet, les technologies qu'on utilise, les process de développement. Et donc, ça demande forcément de le prendre en compte dès le début et de le faire tout au long du projet. Et donc, on travaille comme ça avec nos clients maintenant, en tout cas dans les industries où c'est nécessaire.
Samir, vous affichez une croissance à deux chiffres depuis votre création. Vous êtes présent, comme je le rappelais, dans 4 pays et 3 continents. Parlons du développement de Witekio. Quels sont justement les grands chantiers de votre société dans les prochaines années?
Alors, je dirais que Bon, déjà, on essaie toujours de se réinventer, effectivement. On est dans une industrie qui ne respecte pas les traditions et qui respecte l'innovation. Donc, il faut qu'on soit toujours vigilant et toujours à penser à 2, 3, 5 ans devant nous. Donc, il y a 3 grands axes pour les prochaines années pour Witekio. Le premier, c'est de tirer le meilleur parti de chacune de nos implantations. C'est-à-dire que nous sommes en France et notamment à Lyon et Paris, proche de centres d'expertise technologique pointue, notamment Grenoble, Chambéry et aussi la région de Nantes et Angers sur le volet électronique. Nous sommes aux États-Unis, proche des grands éditeurs logiciels, Amazon, Microsoft, et proche de la Silicon Valley aussi, où il se passe pas mal de choses sur le volet hardware dernièrement. On va avoir notre implantation allemande qui est très ancrée dans la plus grande masse d'équipementiers industriels d'Europe. Hein. L'Allemagne est de très loin le plus gros marché là-dessus. Et puis l'Angleterre, qui est une zone software assez à la pointe, avec notamment des gros acteurs comme Arm, qui sont des incontournables sur les semi-conducteurs et avec lesquels on a des partenariats assez proches, et il faut qu'on les développe encore. Donc, c'est de se dire, voilà, on a 5 bureaux, c'est pour une bonne raison, et chacun doit exploiter le mieux possible ça et mieux assembler nos différentes compétences pour être capable de faire travailler ces bureaux ensemble, puisque pour moi, la croissance passe par l'international. Et aussi, quelque part, la motivation de Witekio a toujours été ce cosmopolite et cette diversité qui nous anime. La deuxième chose, c'est la création de Brick IP. Comme je vous le disais, nous sommes un bureau d'études, donc on va créer des logiciels pour d'autres. Avec ces 20 ans d'expérience et les 130 projets par an, on a accumulé quelques actifs, on va dire, et on est en train de créer nos propres briques logicielles également, qui permettent au R&D de gagner 4 mois, 6 mois, 9 mois de développement plutôt que de repartir à zéro. Donc, quelque part, on vient tuer notre propre business nous-mêmes avant que d'autres le fassent en créant ces briques qui nous font gagner du temps aussi à nous et qui nous permettent de travailler sur des couches applicatives plus rapidement pour les clients. Donc, il y a vraiment ce volet IP qui est une transformation non négligeable pour l'entreprise. Et le troisième volet, comme vous le savez, dans le monde de la tech, on fait affaire à une scarcity, un manque de ressources, on va dire qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs globalement sur le marché par rapport aux besoins en technologie, puisque la technologie s'insère partout. C'est plus réservé à l'IT et à l'industrie. Il y a de la techno dans énormément d'objets. Et donc, il y a un manque de ressources. Et puis, il y a un manque de ressources qualifiées aussi. C'est-à-dire que pour avoir des ingénieurs d'un bon niveau, ce n'est pas quelque chose d'évident non plus. Et donc, on développe notre propre académie qui va nous permettre au fur et à mesure de mettre au niveau certaines personnes à qui il manquerait quelques éléments pour être au niveau d'exigence de WITECHIO sur la qualité d'expertise et de développement, et qui nous permet aussi d'embaucher un peu plus large sur des territoires qui produisent un peu moins d'ingé, puisque la France produit beaucoup d'ingénieurs, et c'est très bien. Sur les autres territoires, il y a beaucoup plus de difficultés à trouver des ingénieurs de qualité.
Samir, notre entretien touche déjà à sa fin. C'était un plaisir de découvrir le savoir-faire technologique de WITECHIO.
Merci beaucoup, Pierre. Comme je disais, on est assez proche de la communauté entreprise du futur et j'invite bien évidemment tous les dirigeants qui se poseraient des questions, qui voudraient aller plus loin puisqu'on est sur des formats courts, hein, donc c'est assez dense, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en plus, à me contacter directement sur LinkedIn ou éventuellement à contacter mes équipes dans les différentes implantations.
C'est bien noté, le rendez-vous est pris. Samir Bounab, directeur général de WITECHIO. Merci Samir.